La problématique de la pollution invisible, c'est qu'en fait, on s'intéresse juste à l'instant T et on ne prend pas en compte l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique.
Dans la pollution du numérique, il y a les serveurs, c'est plus de 50% de la pollution du numérique.
Moi, ce que je conseillerais déjà, c'est de travailler sur la durée de vie du matériel informatique et téléphonique. Si on s'attaque juste au mail, en fait, on reste extrêmement superficiel dans son action.
Tout le service et toute sa façon de stocker la donnée, par exemple, de privilégier plutôt un stockage local qu'un stockage cloud.
Bienvenue dans Ma boîte au vert, le podcast proposé par Néode 2030 qui lève le voile sur la question du développement durable dans les PME. Pour ce deuxième numéro, nous recevons Magali Crécy, directrice de NWX, et David Julien, cofondateur de Mon site vert, pour parler numérique, et plus particulièrement pollution numérique. Une pollution qui ne se voit pas, mais dont nous sommes tous co-responsables et qui ne cesse d'augmenter chaque jour. Alors pas de doute, apprendre à consommer le numérique de manière responsable est un enjeu capital dans la course à la décarbonation. On vous dit tout maintenant dans Ma boîte au vert. Eh ben, bonjour à tous les deux. Alors avant tout, déjà merci d'avoir accepté notre invitation et de nous parler aujourd'hui de numérique responsable. Et avant de démarrer le podcast, j'aimerais vous poser une seule et même question. Alors le carbone issu du numérique, vraie source de pollution ou faux problème?
Si, c'est un vrai problème puisque le secteur du numérique est l'un des secteurs les plus polluants en France. Il va devenir probablement même le secteur le plus polluant à horizon 20 à 30 ans.
Moi, je dirais vraie source de pollution, mais la problématique principale, c'est qu'on est sur de la pollution invisible.
Alors, je vais vous présenter. Donc, Magali, tu es la directrice depuis 3 ans environ de NWX. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est?
Alors, NWX, c'est une association. On est tête du filière du numérique en Normandie, aux côtés du Pôle TES. Et en fait, notre objectif va être de créer un écosystème bienveillant pour développer le numérique sur le territoire normand.
C'est un groupement d'entreprises, en fait, c'est ça?
Tout à fait. On est un groupement d'entreprises, principalement des apporteurs de solutions, des ESN, des opérateurs qui travaillent dans la cybersécurité.
Ça fonctionne un peu comme une filière?
Exactement. L'objectif sur 3 ans, c'est de créer une vraie identité numérique régionale et de travailler en transversalité avec l'ensemble des autres structures qui font peu ou prou le même projet que nous en local.
Alors justement, je te pose la question et on va rentrer après dans le vif du sujet, mais vous êtes une filière donc régionale. Et elle est comment la Normandie sur la partie numérique responsable?
Il y a plusieurs collectivités locales notamment qui se sont emparées du sujet, mais globalement, pour l'instant, la culturation est encore relativement faible. Et quand on va en territoire, des fois, on parle numérique responsable. Première question, est-ce que vous savez de quoi on parle? Et les gens n'ont pas forcément capté en fait ce que ça pouvait recouvrir.
Eh bien, tu vas nous expliquer tout ça. David, donc bonjour. Bonjour. Toi, tu es dirigeante de Mon site vert. Donc c'est une start-up normande.
Oui, exactement.
Qui a développé, alors tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe, un éditeur éco-responsable de site internet.
Oui, et en complétant avec de l'hébergement vert. Puisque la solution, elle est complète, c'est à la fois proposer un outil qui conçoit des sites internet allégés, éco-responsables, et qui sont tellement allégés qu'on peut les stocker sur des serveurs de la taille d'une carte de crédit alimentés par des panneaux solaires en Normandie.
Ok, très beau programme, tu nous en diras plus tout à l'heure. Mais avant de rentrer dans tous ces détails, en fait, j'aimerais qu'on commence par une question très simple. Tu l'as un petit peu abordée, Magali. On a souvent le sentiment, effectivement, quand on utilise du numérique, on est clean, quoi. Ça ne se voit pas, on ne produit rien comme carbone. C'est une fausse idée, ça?
Fausse idée, oui, complètement. C'est la pollution cachée, un peu le même principe que la voiture électrique, c'est vert, parce que effectivement, à l'usage au quotidien, on ne voit pas la pollution, mais en fait, derrière la conception, il y a eu un impact carbone très fort. C'est exactement le même débat dans le secteur du numérique. On a l'impression d'utiliser notre ordinateur, des serveurs, des réseaux, etc. Et on se dit, ça ne pollue pas ça, je suis tranquille dans mon bureau. Et en fait, on ne se rend pas compte derrière, c'est que des machines à gaz, des serveurs qui coûtent extrêmement cher en énergie et donc en émissions de carbone, in fine. Et ouais, c'est de la pollution cachée, c'est ça qui est dangereux.
Alors, j'ai trouvé quelques chiffres qui viennent de l'ADEME. Donc, paraîtrait-il qu'en France, l'empreinte carbone liée au numérique représente 2,5% de l'empreinte carbone globale, ce qui équivaut à peu près à la pollution du trafic aérien. Et que ça va représenter d'ici une dizaine d'années 5% de l'empreinte carbone de la France totale, la partie numérique essentielle.
essentiellement, ce qui est énorme quand même, ce qui en plus c'est en progression totale.
Alors, ce chiffre de l'ADEME est très juste dans ses propos, ses chiffres. Pour préciser, l'ADEME, hein, c'est un organisme d'État qui s'occupe de toute la partie écologique au niveau du territoire français. Ce qu'il ne prend probablement pas en compte dans son calcul, c'est que les Français consomment également des serveurs américains, des serveurs chinois, qu'on utilise TikTok, Amazon, etc. Et ça, ce n'est pas pris en compte dans le calcul au niveau de la souveraineté nationale. Et donc, je pense que le secteur du numérique français et la consommation des Français et des entreprises françaises au-delà doit être bien plus importante que ça, en vrai.
C'est pire que ça, quoi.
Ouais.
Et au niveau mondial, on a une idée, effectivement, de ce que ça peut représenter.
J'avais un chiffre en tête qui vient de l'ADEME. C'était 600 millions de tonnes de CO2 chaque année, uniquement le secteur du numérique. Donc, c'est énorme. Donc, 17 millions de tonnes en France, 600 millions au niveau mondial. Et pour donner un comparatif sur les 17 millions de tonnes français, c'est comme si on faisait 120 vols par jour Paris-New York tous les jours pendant 300 ans. C'est une année de web français, de numérique français.
Elle est générée par quoi, cette pollution? Parce qu'effectivement, comme tu le disais, on a le sentiment d'être tranquille dans notre bureau et de faire de mal à personne. Donc, pourquoi est-ce qu'on pollue quand on est sur nos ordinateurs?
La problématique de la pollution invisible, c'est qu'en fait, on s'intéresse juste à l'instant T et on ne prend pas en compte l'ensemble de la chaîne de valeur du numérique. C'est-à-dire que le numérique, l'ordinateur, il y a l'avant, c'est-à-dire l'extraction des terres, des métaux stratégiques, des terres rares, qui a un coût social, qui a un coût environnemental, qui est énorme. Ensuite, il va y avoir la construction, il va y avoir les litres d'eau qui vont être utilisés pour produire justement nos terminaux numériques. Et une fois que l'utilisation est terminée, on va aussi avoir toute la partie recyclage, réemploi ou tout simplement voilà, jeter. Et donc, toute cette chaîne de valeur est à prendre dans sa globalité pour calculer la pollution numérique.
En fait, faut vraiment considérer le cycle de vie. Il y a un avant et un après le moment où on est en train de consommer et d'utiliser le numérique, quoi.
Oui, bah, si on peut comparer par exemple à la voiture électrique auquel voilà, on travaille beaucoup sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ou le jean. Le jean aujourd'hui, enfin à une époque ça avait fait beaucoup, beaucoup polémique. Le jean, en fait, le vêtement pollue avant d'arriver à l'intérieur du magasin. Et l'ensemble de la pollution, souvent, c'est en amont, avant l'achat. Donc, il y a un ensemble de choses à prendre en compte, en effet. On fait beaucoup chez NWX d'acculturation. Donc, quand justement on va en territoire et qu'on veut expliquer le numérique responsable, on utilise une formule qu'on a essayé de simplifier, qui dit qu'en fait, le numérique responsable, c'est une façon d'empêcher que la croissance numérique qu'on vit aujourd'hui, qui nous apporte du confort de vie et qui semble relativement inarrêtable, ne viennent pas percuter la transition écologique qu'on doit aussi nécessairement mener pour ne pas handicaper l'avenir de nos enfants.
L'objectif, c'est pas de ne plus utiliser le numérique, c'est de l'utiliser avec la focale. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pas trop mauvais pour la planète?
Oui, c'est ça. En fait, c'est de pas être se sentir responsable parce que j'ai consommé quelque chose, parce que sinon à ce moment-là il faudrait qu'on s'arrête tous de vivre et qu'on retourne dans la forêt, ce qui est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de se dire comment je consomme de façon responsable au moment où je fais un acte d'achat d'un ordinateur, d'une consommation d'un service web quelconque, en fait, que je regarde la façon dont il a été conçu, donc l'analyse du cycle de vie, prendre en compte vraiment tout le sujet et de se dire, ok, là, je consomme quelque chose qui potentiellement pollue, mais pollue beaucoup moins que si je n'avais pas fait attention, que j'avais pris l'autre service d'à côté qui est juste une catastrophe, par exemple.
Alors, concrètement, donc, première action sur laquelle on peut travailler, c'est effectivement au moment de l'achat. Une fois qu'on est déjà plutôt vertueux de ce côté-là, en tant qu'entreprise, puisque là, nous, on s'adresse plutôt à des entreprises, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on entend souvent, justement, chez Neod, la question, on ne s'envoie plus de mails, alors. Qu'est-ce qu'on fait avec nos mails? Et bah, du coup, je vous la pose, qu'est-ce qu'on fait avec nos mails?
Alors, les mails sont un petit peu un fer de lance qui ont servi à mettre le sujet sur la table. Mais il ne faut pas se dire que si on ne s'envoie plus de mails ou qu'on nettoie sa boîte mail, et il faut le faire, voilà, il y a quelques semaines, il y avait le... Digital Cleanup Day, où l'ensemble des entreprises sont invitées à nettoyer, à réfléchir aux données qui sont stockées, à nettoyer les mails, nettoyer et à afficher le résultat des tonnes de carbone qui ont été économisées durant cette journée. Donc ça, c'est positif, c'est bien. Mais le mail, en fait, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Si on s'attaque juste au mail, en fait, on reste extrêmement superficiel dans son action. Et l'idée, c'est quand même d'aller réfléchir en profondeur à l'ensemble de sa démarche, la façon de travailler et la façon d'envisager en fait sa gouvernance, son fonctionnement, etc.
En fait, les mails, effectivement, c'est intéressant, c'est important, c'est une façon de faire prendre conscience. On en parlait il y a une dizaine d'années déjà, de vider vos boîtes mails, parce qu'effectivement, c'était... Les mails sont stockés sur une boîte mail. Les boîtes mail, c'est quoi ? C'est stocké sur un serveur. Et le serveur, plus il est plein, plus il consomme de l'énergie pour tourner, fonctionner. Il consomme de l'énergie, il faut le refroidir. Donc, ça consomme de l'énergie de refroidir. Et puis, une fois que c'est plein, il faut reconstruire un deuxième data center, un deuxième serveur dans un data center pour pouvoir... Et puis, c'est sans fin, en fait. Donc, on a juste commencé à faire prendre conscience aux gens il y a 10-15 ans avec « videz vos boîtes mail ». Mais un mail qui fait quelques kilos, alors multiplié par des millions de mails, on est d'accord que ça fait c'est beaucoup. Il faut commencer par quelque chose et c'était ça. Mais derrière, c'est tout le service et toute sa façon de stocker la donnée. Par exemple, de privilégier plutôt un stockage local qu'un stockage cloud. Parce que le cloud, c'est je mets mes vidéos, je mets mes fichiers, je mets tout, qui pèse bien plus lourd qu'un mail, sont stockés sur des serveurs à distance et je les appelle dès que j'en ai besoin pour les faire arriver sur mon téléphone au moment où j'en ai besoin. Donc c'est un service énormissime qui nous a énormément aidé et qui nous a permis de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui le remote, le télétravail. Cependant, encore une fois, c'est qu'est-ce que j'en fais ?
Tu reviens souvent sur le data center, en fait, sur le serveur. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu quand même le cœur de la problématique ou la question à se poser quand même de manière essentielle. Où est-ce que je vais héberger mes données, en fait ? On doit vraiment être vigilant à ça ?
Ouais, il y a en fait dans la pollution du numérique, il y a les serveurs représentent à eux seuls les serveurs et nos ordinateurs, nos téléphones, tout ce qu'on appelle les devices, c'est plus de 50% de la pollution du numérique. C'est pour ça que j'insiste là-dessus depuis tout à l'heure. C'est parce que n'importe quel service, aussi vertueux soit-il, s'il est hébergé sur un serveur hyper loin de l'autre côté de la planète, qui en plus n'est pas du tout vertueux en termes d'énergie, et c'est que du carbone, de l'énergie carbonée, donc de l'énergie produite par du pétrole, c'est juste une catastrophe. Donc c'est là où il faut réfléchir et penser tout de suite. OK pour un ensemble de services distants, OK pour mettre en place un service mail, OK pour mettre en place toutes ces choses-là, mais à réfléchir le serveur que je vais utiliser et les outils que je vais acheter. Les ordinateurs, ça peut être par exemple du reconditionné. Aujourd'hui, il y a des offres professionnelles autour du matériel reconditionné qui sont très pertinentes. Des belles entreprises françaises en plus, comme Back Market, qui font des choses intéressantes sur des offres pro, qui permettent justement de baisser son bilan carbone à l'achat, plus des offres de cloud en distance, de serveurs à distance qui sont également à l'énergie verte. Et donc tout ça permet justement de baisser son bilan carbone, mais de façon conséquente par rapport à une entreprise lambda qui ne réfléchit même pas à tout ça.
C'est plus cher d'héberger sur un serveur green, qui local, etc., que si je vais héberger, parce que c'est souvent ça aussi la question, que si je vais héberger en Chine, à l'autre bout de la planète.
Après, il faut voir, quand on voit le prix de l'énergie, on peut se dire qu'au bout d'un moment, le ratio à des serveurs green qui potentiellement vont moins consommer en énergie, vont être moins gourmands, etc., est plus durable. Ça risque de se rééquilibrer. Et en plus, il y a aussi une problématique. Quand on va héberger en Chine ou aux États-Unis, on est soumis aux droits américains ou aux droits chinois en termes de protection de ces données. Le numérique responsable englobe aussi une problématique de souveraineté de la donnée aujourd'hui, on parle beaucoup, beaucoup de cybersécurité, est essentielle.
Il y a d'autres enjeux, effectivement, que purement ceux écologiques, quoi. Alors, on a parlé des mails, on a bien vu que c'était effectivement l'arbre qui cachait la forêt, que ça pouvait être un bon point de départ ou de sensibilisation, mais que ça restait presque marginal par rapport à l'ampleur de la problématique. Il y a forcément un autre levier dans le numérique, c'est les sites web. Aujourd'hui, toutes les entreprises ne peuvent pas se passer d'un site Internet. C'est pareil, est-ce que ça produit beaucoup de carbone ? Ça fonctionne comment ? Est-ce qu'il y a des moyens aujourd'hui d'être plus vertueux quand on a un site internet ou quand on veut créer un site internet ?
Donc effectivement, un site internet, on en a besoin. Chaque entreprise en a besoin pour communiquer. Sans site internet, en fait, qui est la base d'une communication digitale et autour, on fait tourner des réseaux sociaux et autres. Sans ça, ça va être compliqué de faire vendre son produit, son service. Donc, partant de ce constat où tout le monde a besoin de communiquer, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à faire des sites internet classiques ou est-ce qu'on essaie de trouver une solution ? Effectivement, un site internet, en moyenne, ça pollue. C'est 1,75 g de CO2 par page, par visite de cette page. Donc, ça peut très vite représenter plusieurs kilos ou centaines de kilos de CO2 chaque mois pour une entreprise standard. Je ne parle pas forcément des très grands groupes avec leurs gros sites qui génèrent des millions de vues. Mais même une PME, une TPE-PME normande, puisque c'est elle qui nous écoute là, ça peut représenter plusieurs dizaines de kilos de CO2. Donc, si demain, elles veulent faire attention à leur bilan carbone, elles ont un impact sur leur communication digitale. Donc oui, il existe des solutions. J'ai créé une solution sur le sujet de la décarbonation du web avec mon associé Eftel. Donc oui, il existe des solutions. Il faut vraiment penser à la taille de sa page. Plus elle est légère, mieux c'est. Parce que si elle est légère, c'est que la requête pour l'appeler du serveur, c'est léger et donc ça consomme moins d'énergie. Et puis de l'autre côté, le serveur. Si le serveur il est green, il consomme que de l'énergie verte, alors à ce moment-là, on va avoir un impact carbone beaucoup plus faible puisque l'impact carbone est surtout sur la conception du serveur, mais pas à son usage. Son usage est un peu plus limité, mis à part les antennes relais 4G, 5G, il n'y a pas de consommation d'énergie à l'usage du site internet.
Et je peux quand même avoir un joli site internet moderne avec des belles photos qui va plaire à potentiellement mes clients ou je vais me retrouver avec un site des années 2000 tout statique ?
Un site 1.0 ? le cliché effectivement de l'écologie, effectivement, il est là. Tu as raison. Il y a le cliché, on vient souvent nous voir en nous disant « Ouais, mais c'est bien, mais vous allez nous faire un site, ça va être une page toute noire avec rien dessus, ça va être pas très beau et en termes de communication, d'accord, je suis écolo, super, je suis content, mais de l'autre côté, j'ai un site pas beau du tout, quoi, et ça va pas attirer le chaland. » Eh ben non, aujourd'hui, on a des solutions qui permettent clairement de faire des sites qui sont aussi beaux, aussi chiadés en termes de communication que n'importe quel autre outil, il y en a plein, et on peut faire du vert en faisant des sites. Un site web, on ne fait pas un site web pour du vert d'ailleurs, on fait un site web pour de la communication d'abord. Ensuite, dans un second temps, on s'attache à ce qu'il soit vert. Et donc, on peut faire un super beau site.
Et d'ailleurs, celui de Neod, on pouvait y aller dessus, il est très très beau et il est conçu comme ça. C'est parfait. Je voudrais juste qu'on revienne deux secondes sur la manière de travailler. On a parlé des mails. Quand on a préparé l'émission la dernière fois, vous m'avez parlé d'autres solutions qui peuvent être vertueuses pour continuer quand même à pouvoir s'échanger, travailler ensemble, etc. Il existe des moyens, effectivement, de continuer à pouvoir partager des documents ?
Oui, oui. Si on reprend la problématique des mails, une des problématiques qui revient souvent, c'est la question des pièces jointes. On sait que quand on envoie son mail avec une pièce jointe plus ou moins volumineuse à un ensemble d'interlocuteurs, le bilan carbone de son envoi, juste pour un clic, est plutôt mauvais. Donc par exemple, ce qu'on peut envisager, c'est utiliser un espace de stockage en ligne temporaire. Quand on envoie le mail, on envoie juste un lien. Vous envoyez un lien et les gens qui le souhaitent, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir besoin de consulter la pièce jointe, peuvent télécharger la pièce jointe.
Pour compléter ce que vient de dire Magali, en fait, il y a les personnes pour s'échanger des pièces volumineuses, des fichiers volumineux, passent par très souvent, le plus connu, c'est WeTransfer, qui est extrêmement polluant, en tout cas, de ce que j'en sais. Et il existe d'autres solutions comme FileVert, qui fonctionnent sur le même principe. Je charge ma pièce jointe directement, mon fichier directement dans FileVert, et j'envoie un lien. Et en fait, la différence, c'est que c'est un serveur derrière qui est éco-responsable, qui consomme beaucoup moins d'énergie. Il en consomme, quoi qu'il arrive, hein, il en consomme. Mais encore une fois, c'est ce qu'on disait, c'est pas être zéro carbone, c'est être bas carbone dans sa réflexion. Et donc, si je dois envoyer ce fichier, ok, je vais l'envoyer, mais par contre, comment je l'envoie en essayant de consommer le moins possible. Donc, il existe plein d'alternatives partout, que ce soit la conception de site web, on en parlait, mais que ce soit sur l'envoi de fichiers, que ce soit sur les emails, on a EcoMail aussi en France. Il y a plein de pépites françaises sur le sujet et qui permettent d'avoir des solutions bas carbone.
On a dit plein de choses déjà. Un petit conseil peut-être si des entreprises nous écoutent et qu'elles ont envie d'aller un petit peu plus loin, de se former ou de former leurs équipes informatiques. Où est-ce qu'on peut se renseigner? Il existe des choses, des certifications, des formations?
Oui, il y a un institut en France qui est le fer de lance du numérique responsable. Il s'appelle l'Institut du numérique responsable. En fait, ils sont basés à La Rochelle, mais ils irradient sur l'ensemble du territoire. Et on a en Normandie des experts qui sont formés justement pour accompagner les entreprises vers ce qu'on appelle la certification numérique responsable, qui est une formation de 2 jours qui permet de balayer en fait de façon assez large l'ensemble du sujet. C'est une première étape. Et ensuite, pour les entreprises qui veulent aller plus loin, les étapes suivantes, ça va être un label, donc un label de niveau 1, qui commence par un audit et ensuite un accompagnement sur 18 mois, et ensuite un label de niveau 2 pour les plus aguerries ou celles qui sont vraiment prêtes à assurer leur transformation. C'est quelque chose qui doit se faire sur du temps long, mais qui peut être très très bénéfique dans quelques années, parce qu'en fait là on en est aux prémices de ce sujet-là. On en est aux prémices et en fait quand dans quelques années peut-être qu'on introduira la triple comptabilité avec la valorisation des entreprises via sa RSE, etc. Voilà, au moins ceux qui auront cranté dès maintenant auront une sacrée longueur d'avance. Dans les motivations qu'il peut y avoir, il peut y avoir une vraie motivation d'engagement personnel. Ça travaille aussi beaucoup sur la marque employeur. Et au-delà de ça, il y a aussi clairement un bénéfice financier pour les entreprises. Les bénéfices sont vraiment multiples.
C'est vertueux sur plein de points au final, pas uniquement écologique. Donc avant de conclure, s'il y avait un seul conseil déjà pour démarrer simplement et rapidement sur le numérique responsable, qu'est-ce que vous conseilleriez aux entreprises?
Moi, ce que je conseillerais déjà, c'est de travailler sur la durée de vie du matériel informatique et téléphonique. Par exemple, en fait, on a beaucoup d'entreprises qui changent les téléphones de leurs employés tous les 12 mois, 18 mois pour avoir le dernier modèle, etc. Ou voir les ordinateurs qui ont des durées de vie de 3 ans. Et en fait, clairement, ils peuvent durer plus longtemps ces ordinateurs. Il y a aussi des entreprises qui peuvent travailler sur la remise en état et pourquoi pas la réinjection dans le circuit des terminaux informatiques comme ça. Mais voilà, juste changer un téléphone tous les 24 mois au lieu de 12, eh ben ça réduit déjà la pollution par deux. Et ensuite, il y a des grosses économies aussi à faire d'un point de vue financier à la clé.
Donc en résumé, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est s'interroger sur au moment de l'achat, faire durer les appareils le plus longtemps possible, être vigilant sur les serveurs, et puis essayer de concevoir des sites web light et de limiter les mails et d'utiliser des outils plutôt verts pour le partage de fichiers et de données. Déjà, si on fait tout ça, c'est pas mal.
Ça fait déjà quelques pistes pour travailler.
Alors, ça fait des pistes, mais c'est pas non plus insurmontable.
Non, c'est pas insurmontable. Et l'idée, c'est qu'aussi, voilà, si on travaille en mode colibri, chacun fait sa part. Quand on est entreprise, on est prestataire, mais on est aussi souvent client d'autres entreprises. Donc, pour emmener tout le monde avec soi, ça peut être intéressant de challenger un peu ses prestataires, ses propres prestataires.
Ok, mais je crois qu'on a tout dit. Merci à tous les deux de nous avoir accordé du temps et puis on se retrouve très, très prochainement sur d'autres épisodes.
Merci.
Merci d'avoir été à l'écoute de ce deuxième numéro de Ma Boîte au Vert, le podcast de Néode 2030 qui lève le voile sur la question du développement durable dans les PME. N'oubliez pas de consulter notre site internet neode2030.fr. Vous y trouverez tout un tas d'informations, de conseils et de contacts pour engager concrètement la transition environnementale dans votre boîte. N'hésitez pas à partager ou à liker ce podcast. Ma Boîte au Vert, c'est fini. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt.